Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Anne. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bonjour, Anne Martel, cofondatrice d'Alcor et Misor Stratégie, gestionnaire de risque, ancienne expert en sinistre, ancienne courtière en assurance, mais maintenant conseil en assurance seulement pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises dans leurs défis d'assurance.
Super intéressant et justement pertinent avec la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'une assurance cyber? Parce que une cyberassurance, comme on veut nommer ça, parce qu'il se dit beaucoup de choses, je pense que les gens ne maîtrisent pas. C'est d'autant plus populaire maintenant que les incidents sont de plus en plus courants, donc peuvent être un outil utile. Mais je ne suis pas sûr que les gens le comprennent au complet. Fait, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça sert?
Oui. Ben, il y a plusieurs volets, puis je vais essayer de vous le décortiquer en deux plans. Le premier, la cybersécurité va couvrir toutes les conséquences financières de notre entreprise, par exemple, qui est cyberattaquée. Donc, on a une cyberattaque, naturellement, nos opérations sont arrêtées, nos employés ne peuvent pas continuer leurs tâches journalières. Alors, il y a une conséquence là, dans notre productivité et ça a une conséquence financière directe sur notre entreprise, nos clients puis nos fournisseurs. Donc, au niveau de la police d'assurance, ça vient couvrir tous les frais de perte d'exploitation, d'inopération. Plusieurs choses aussi accompagnent le volet de perte d'exploitation et d'inopération. Donc, tous les frais de soutien à l'incident. Parce que quand ça arrive, il faut aller chercher des experts qui sont en mesure de venir nous aider à bien mener à bon port toutes les conséquences d'image et financières. Donc, s'il faut engager des experts dans l'urgence au niveau de tous nos équipements informatiques, serveurs, toute personne aussi en communication, parce que parfois, il faut justement venir expliquer à notre clientèle, à nos fournisseurs ou même dans les médias les conséquences que cette cyberattaque-là peut avoir sur notre entreprise et les gens qui l'entourent. Alors, du soutien à aux communications, une spécialiste qui va venir expliquer qu'est-ce qui s'est passé, la suite des choses, pour rassurer, dans le fond, toutes les gens qui sont atteints par cet événement-là. Parfois aussi, pour l'entreprise, il peut y avoir des frais de soutien à la défense. Je vais vous donner l'exemple le plus connu, je crois, c'est celle de Desjardins. Lorsqu'il y a des recours collectifs qui s'installent pour l'entreprise, il nous faut tous les frais peut-être d'avocats, les frais juridiques qui vont être liés à la défense du recours collectif vont être importants d'être soutenus parce que pour pas que l'entreprise ait des difficultés financières. J'en parlais un peu tantôt, l'atteinte à la réputation, ça peut avoir aussi des conséquences financières. Donc, le produit cybersécurité pour le premier volet est pas mal celui-là. C'est sûr que j'ai plein de. Il y aurait peut-être plein de petites subtilités de la police d'assurance, mais en gros, c'est ça que ça vient couvrir. Par la suite, bien, le deuxième volet, c'est justement les conséquences sur les tiers. Alors, pour ceux qui se font usurper leur identité, parce que si vous êtes une entreprise qui avait des renseignements personnels, confidentiels, carte de crédit, date de naissance, numéro d'assurance sociale, ça peut avoir des conséquences importantes sur les tiers. Alors, tantôt, j'ai parlé plus sur l'entreprise, mais maintenant, sur les personnes qui peuvent en avoir des conséquences. Tout ce volet-là aussi est couvert par la police d'assurance, comme par exemple avec Desjardins. Desjardins offrait d'être protégé à tous ses clients par Equifax. Alors, payait les frais annuels pour les 5 prochaines années pour être comme alerté en cas de vol d'identité pour que les gens soit tout de suite en mode proactif pour se protéger et limiter les conséquences. Alors, la police cyber, là, en gros, c'est ça que ça représente. Mais il y a encore, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais l'essentiel, je pense que c'est ça qu'il faut retenir.
À mes yeux, expliquer comme ça, ça a l'air un peu magique, parce que juste pour prendre une cyberassurance et s'il m'arrive un malheur, tout est couvert. J'imagine qu'il y a des subtilités, justement, dans les subtilités qui permettent justement, tout ne doit pas être nécessairement couvert ou pas couvert nécessairement à la même hauteur. Parce que si c'était magique, je pense que tout le monde souscrirait immédiatement à cet élément-là. Puis le second volet, c'est les coûts rattachés à ce genre de choses-là. Ça ne doit pas être nécessairement gratuit, ce degré de protection-là non plus.
Ah, tu as tout à fait raison, Nicolas. Puis, tu sais, la première chose que je dirais, t'sais, le domaine de l'assurance, c'est une jungle en soi. Puis souvent, les gens sont néophytes dans ce domaine-là, puis c'est très difficile de s'y retrouver. Effectivement, on peut demander une soumission cyber, penser qu'on est complètement couvert, puis malheureusement, lorsque l'événement arrive, on va être malheureusement déçu parce qu'on croyait comme la police tout inclus, là, la tout risque, puis là, ah, tout d'un coup, il y a des exclusions ou des limitations. Alors, moi, mon conseil là-dessus, c'est effectivement, quand vous allez vers un courtier ou un agent d'assurance de dommages, de demander-lui beaucoup de questionnements parce que un bon prix va peut-être être justement l'indicateur d'une police d'assurance très limitée en cyber. J'en ai un client, par exemple, dernièrement, qui m'a dit « Ah oui, je suis couvert en cybersécurité, j'ai une police d'assurance. » Il me l'a envoyé, il coûtait 600 $. Bien, effectivement, pour 600 $, il n'avait pas tout ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Et c'est là que lorsque j'ai fait l'analyse, je me suis rendu compte qu'il lui manquait plusieurs sections. Alors, si on aurait eu toutes les sections, on serait peut-être plus vers 2 500 $ et non pas 600 $. Alors, quand j'ai amené ça à sa connaissance, bien, c'est sûr qu'il était déçu parce qu'il pensait pour un montant de 600 $ qu'il avait tout ce qu'il fallait dans la police cyber. Malheureusement, c'était un produit de base qui n'avait pas tout et qui avait les bonnes sections importantes principales, mais qui n'aurait pas soutenu adéquatement financièrement cet entrepreneur-là ou son entreprise face à la situation de cybersécurité. Donc le prix peut être un élément indicateur de vous peut-être poser des questions. 600 $, c'est un aubaine. Bien, c'est ça. Il faut peut-être questionner l'agent puis le courtier pour s'assurer que c'est une police pratiquement tout risque ou tout inclus. L'autre chose aussi qu'il faut bien regarder, puis parfois, bien, on fait royalement confiance à celui ou celle qui nous propose le produit d'assurance, c'est les limitations. Prendre un produit d'assurance cyber, par exemple, à 1 million de $, bien, de tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure comme genre d'exemple sur quoi l'entreprise peut être soutenue, on va penser que c'est 1 million partout. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'assureur va limiter, par exemple, l'ingénierie sociale, donc pour 25 000, pour 250 000, mais n'a pas le million. Donc, voilà aussi un autre aspect de déception lorsqu'il arrive quelque chose où ce que on croyait qu'on avait 1 million de $ sur notre police cyber, puis on se rend compte lors de l'événement bien, que cette section-là précise était limitée. Donc, ce n'est pas nécessairement une exclusion, mais une limitation. Donc, il faut être prudent, il faut agir en diligence. Quand on n'a pas les connaissances dans l'assurance ou spécifiquement dans l'assurance cybersécurité, ben, faut essayer de s'entourer idéalement, puis peut-être demander 2 avis, tu sais, à 2 courtiers, 2 agents. Comme ça, oups, on se rend compte qu'il y avait justement des subtilités puis des différences que un ou l'autre ne nous avait pas nécessairement expliquées. Ou de venir vers Alcor et Misar, parce que nous, on ne vend pas de produits d'assurance. On est juste à accompagner les personnes qui s'occupent des dossiers d'assurance, à avoir un avis neutre et impartial de qu'est-ce qu'ils essaient d'acheter ou qu'est-ce qu'ils essaient de renouveler. Puis nous, on a la connaissance et l'expérience pour vous dire, c'est une police à la coche, thumbs up, tout est fantastique, merveilleux. Ou malheureusement, saviez-vous qu'il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, vous pourriez avoir ci, vous pourriez avoir ça. Donc, c'est de faire notre travail, celui-là qui fait le shopping dans la police d'assurance, faut qu'ils agissent beaucoup avec prudence et diligence et curiosité. Je pense que c'est le mot-clé plutôt, être curieux pour s'assurer que tout est bien fait. Puis si parfois, vous pouvez aller vers une entreprise comme la nôtre, ben nous, on peut vraiment vous donner une lecture juste de ce produit-là spécifiquement.
C'est très intéressant. De toute façon, je suis le premier à me fier à d'autres experts dans d'autres domaines parce que je suis bon dans le mien, mais dans les autres, je suis pas super bon. Et j'assume bien le fait que je suis pas super bon en dehors de mon domaine. Fait que justement, d'aller chercher le conseil où c'est nécessaire d'aller le chercher. Ça, c'est un volet. Parce que dans le fond, là, on parlait justement d'une assurance tout risque, mais les entreprises ont probablement des besoins qui peuvent être diversifiés, n'ont pas besoin nécessairement du gros package que tu mentionnes en partant. Et justement, vous allez être en mesure de les accompagner, par exemple, à déceler ou trouver le bon produit qui est adapté à leurs besoins.
Exact. Chez Alcor et Misor, on accompagne les petites entreprises, les PME, les moyennes et les grandes. Alors, pour une police cyber, ça peut passer de 500 $. Pour la grande entreprise, on a des clients qui payent au-delà du million de $ juste pour la section cybersécurité. Puis effectivement, les besoins d'assurance en cyber pour la petite entreprise et la grande ne sont pas les mêmes. Ils restent les mêmes sur toutes les protections que j'ai expliquées. Je pense qu'il est important, même si on est une TPE, une très petite entreprise, d'avoir toutes les sections, mais pas nécessairement avec toutes les grandes limites du 1 million de $, mais au moins d'avoir une protection sur chacune des sections. Ça évite les déceptions, puis on sait pourquoi on paie, puis au moment où ça arrive, ben au moins on a assuré un minimum de risques financiers à notre entreprise. Puis je pense que quand on est une TPE, on est encore peut-être plus vulnérable au niveau de notre quiétude financière ou notre santé financière. Donc, il ne faut pas négliger, parce qu'on est une TPE ou une PME, de ne pas acheter la police tout risque. Moi, j'irais justement analyser les besoins par section avec l'agent ou le courtier ou un membre d'Alcor et Misor. C'est de la gestion de risque. Donc, comment je suis capable de payer pour m'assurer, puis combien je suis prête consciemment à savoir que je n'ai pas le montant total, mais que aussi ça n'arrivera pas jusqu'au montant total. C'est l'approche qu'il faut y avoir, mais pas juste en cybersécurité, dans le domaine de l'assurance en général. C'est pas juste d'acheter des produits puis de payer une prime. Il faut aussi avoir une approche gestion de risque pour justement prendre les bonnes décisions puis de payer la prime la plus juste possible. Donc, c'est comme ça que je pense qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu au niveau des assurances quand on a une réflexion. Puis aussi un accompagnateur qui peut nous amener dans ces sphères-là de réflexion, puis d'arrêter de payer peut-être pour quelque chose qu'on n'a pas de besoin, puis d'acheter quelque chose pour lequel c'est la réalité de notre entreprise. Mais une TPE, PME moyenne et grande ont les mêmes besoins, mais c'est les montants après ça qui diffèrent. Tu sais, 500 000, 1 million, 10 millions, 100 millions en cybersécurité. Mais là, ça dépend justement de la taille de l'entreprise.
Oui, puis pour avoir vu, puis surtout dans les cas de PME ou des TPE, quand on arrive dans un cas d'incident, puis il y en a plusieurs qui ont fait les médias dans les derniers mois, puis même dans les dernières semaines à certains égards, quand l'avantage de l'assurance le plus volé que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que l'assureur envoie une équipe d'experts justement en gestion d'incidents. Et ça vient souvent faire une différence énorme pour les entreprises qui n'ont pas la capacité d'avoir ces équipes-là à l'interne parce qu'elles sont trop petites pour avoir d'avoir des gens qui ne font que ça. Donc, de ramener ces experts-là pour nettoyer rapidement. Puis on peut le voir comme un sinistre. Si on veut avoir une image dans le monde réel, les agents de sinistre qui arrivent rapidement pour nettoyer les situations et remettre le plus rapidement en ordre est probablement le meilleur exemple. Puis c'est ce que j'ai vu dans les derniers temps, qui, je pense, a sauvé probablement de la faillite plusieurs petites entreprises, justement, parce qu'ils ont travaillé avec des experts au lieu de se dépêtrer eux-mêmes avec la situation.
Exact. Ouais.
L'autre volet à ça, c'est l'optimisation. On a un peu abordé à travers le questionnement en amont, choisir le bon produit, mais aussi on peut poser des gestes comme entrepreneur qui vont favoriser une réduction des primes, puis justement, qui vont réduire parce qu'on va réduire notre risque. Puis l'assureur va qualifier cette réduction-là avec en nous faisant bénéficier de certains rabais.
Mm-hmm. Oui, bien, moi, c'est sûr que je suis gestionnaire de risque diplômé, puis j'ai été, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, expert en sinistre au tout début de ma carrière. Donc, d'annoncer les mauvaises nouvelles aux clients, comme quoi que ce n'est pas couvert ou limité, ça m'a été de fortes bonnes expériences parce qu'au moment où je suis revenue à la vente, j'aimais mieux m'attarder sur les exclusions, les limitations que de vendre le produit tout risque, comme on parlait tout à l'heure. Puis, pour faire un lien en gestion de risque, c'est que c'est correct d'acheter une police d'assurance cyber, mais pour moi, si je peux l'imaginer ainsi, c'est le plaster qu'il y a sur le bobo. C'est ça, une police d'assurance cyber ou toute autre police, mais surtout en cybersécurité, on n'aurait peut-être pas besoin d'acheter des polices cybersécurité si l'entrepreneur ou le responsable des assurances ou de la gestion de risque dans leur entreprise aurait vraiment une image parfaite de l'état de sa maison. C'est comme ça que je l'explique souvent à nos clients. Si vos fenêtres, lorsque vous quittez, puis que vos fenêtres sont toutes ouvertes, puis vos portes sont ouvertes ou débarrées, puis il n'y a rien de barré à double clé, c'est facile pour n'importe qui à s'inviter chez vous, puis au voleur, puis aller vous démanteler de vos biens. Donc, dans l'approche cyber, c'est la même chose. Moi, je conseille toujours de faire affaire avec une firme en cybersécurité, en diagnostic de cyber. Alors, ces équipes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vous donner un rapport de l'état de votre maison. Ils vont aller regarder ou même dans une étape ultime, cyber-attaquer, faire des tests d'intrusion sur vos courriels, sur vos CRM, les sites web, puis j'ai une petite attention particulière pour ceux qui ont des sites web transactionnels. Parce que ceux qui ont des sites web transactionnels ou ce qui est plusieurs milliers de revenus par jour, par semaine, par mois, que le site web transactionnel soit arrêté par une cyberattaque, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec attention. Alors, les équipes en diagnostic de cyber vont venir regarder l'état des courriels CRM site web. Souvent, les entreprises ont des personnes en informatique, soit à l'interne, le TI interne, ou font affaire avec des TI externes. Je m'excuse. Donc, c'est d'aviser. Moi, je l'ai fait faire pour mes entreprises et puis avec les clients que j'accompagne tout le temps. On avise nos équipes, soit internes ou externes, de TI, puis on leur dit comme quoi qu'il va y avoir une entreprise qui va faire le diagnostic puis nous donner une lecture juste s'il y a des faiblesses d'intrusion, oui ou non. Lorsqu'on reçoit le rapport, il y a sur le rapport trois inscriptions, des points verts, les points jaunes et les points rouges. Naturellement, on s'occupe plutôt des points rouges. Et les points rouges, bien, c'est les endroits où ce qu'il faut sécuriser la maison. Alors, fermer les fenêtres, fermer les portes, mettre de double clé, des cadenas double clé pour éviter l'intrusion. Si l'état de notre maison est parfaitement protégé, on n'aurait pas besoin de la police cyber, mais on en a besoin quand même parce qu'on n'est pas infaillible à tous les changements qui vont à une vitesse folle dans ce secteur-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut acheter la police cyber. En cas que, justement, qu'il y ait quelqu'un de plus résistant pour rentrer chez nous, puis là, c'est là qu'on a de la protection financière. Mais lorsqu'on a fait le diagnostic, il est beaucoup plus facile de faire du shopping d'assurance rendu à ce moment-là. Pour ceux-là qui travaillent les dossiers d'assurance, savent qu'ils remplissent une proposition, un document, un formulaire d'assurance. Si vous écrivez non, 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 non partout, ou si vous écrivez oui, 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 oui partout, pour le souscripteur, ça, les souscripteurs, c'est ceux qui ont la plume pour écrire les primes d'assurance. Si vous avez écrit que oui, 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 tout est protégé, et en plus, vous annexez votre rapport de diagnostic cybersécurité, bien, il va vous faire une prime raisonnable, peut-être à 2 500. Mais si vous écrivez non, 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 non partout, pas de rapport de diagnostic, bien, vous risquez fortement de payer 10 000. Alors, moi, c'est mon approche. Quand les entreprises n'ont pas de diagnostic, je leur suggère fortement d'investir. C'est à peu près un coût moyen de 2 500 pour avoir un diagnostic. Un, ben, on a une vue de l'état de la maison. Deux, on va sécuriser, donc éviter des intrusions, tous les soucis, les problèmes qui vont avec un problème de cybersécurité. Puis par la suite, ben, ça nous donne un outil pour aller chercher la meilleure prime sur le marché auprès des assureurs. Donc, moi, je trouve vraiment que c'est fantastique et merveilleux d'aller vers ce côté-là, prévention, pour éviter l'utilisation de la police, mais l'achat de la police devient inévitable, mais à un coût raisonnable. C'est ça qui est le but, hein? C'est toujours d'obtenir le meilleur produit au meilleur prix possible, mais je pense qu'avec l'approche diagnostic, là, c'est vraiment un outil pour y réussir.
Oui, j'ai un peu être d'accord avec cette approche-là. C'est sûr que c'est nécessaire de connaître de l'état des choses. Puis pour l'assureur, c'est encore mieux savoir que la valeur ou en tout cas l'état de ce qu'il assure. On va souvent trouver ça en assurance personnelle où on va passer des tests médicaux généralement rendus à un certain âge pour justement voir si notre degré d'assurabilité. On est à peu près dans le même genre, mais dans ce cas-ci, on a une capacité réelle à intervenir sur les systèmes justement pour augmenter le niveau de sécurité, même si on sait que on n'est jamais à l'abri d'un incident de sécurité, mais au moins si on réduit la probabilité d'être une cible ou de faire partie de ça, c'est sûr que c'est toujours mieux, donc ça réduit nos coûts. Donc je le perçois comme un investissement dans le sens où on va réduire nos primes, puis justement, ben, c'est de l'argent qui reste dans nos poches à ce moment-là, en mettant un effort quand même raisonnable de l'autre côté pour sécuriser. Moi, ça faisait vraiment le tour de mes questions par rapport à ces éléments. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts que tu aimerais justement mettre de l'avant puis parler davantage?
Oui, il y aurait un dernier point qui est même super important. Je trouve que j'ai parlé de beaucoup de technicalités, mais souvent, le premier souci en cybersécurité est l'erreur humaine. L'erreur humaine, c'est l'employé qui est en arrière de son ordi, qui rouvre un courriel malveillant ou qui va sur un site. Alors, dans mon approche de gestion de risque et de conseil en assurance, là, je vous ai parlé de diagnostic, mais il y a aussi des entreprises. On a deux partenaires, nous, avec lesquels on fait affaire, qui offrent de la formation, des capsules vidéo qu'on peut acheter en lot pour le nombre de nos employés ou ce qui, à leur rythme ou en personne. Il y a des entreprises qui le font en personne, soit virtuel ou en présentiel, qui viennent donner des formations aux employés pour leur dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, soyez prudents sur ci, soyez prudents sur ça. Parce que selon les statistiques, c'est vraiment pourquoi il y a beaucoup de soucis en cybersécurité, c'est à cause de l'humain qui est en arrière de l'ordi, plus que les intrusions nécessairement juste sur les serveurs. Le pourcentage est plus élevé sur les réclamations par les erreurs humaines que par le souci technique. Alors, dans une approche globale, d'investir aussi dans la formation de nos employés pour qu'ils évitent de nous mettre dans des situations de vulnérabilité et de soucis cyber. Ça passe aussi par ce volet-là qui est peut-être parfois oublié, mais qui devrait être réellement plus important et mis en priorité. Alors, ça serait mon mot de la fin, de ne pas oublier de former l'humain en arrière de l'écran. Ça reste un élément très important à ne pas oublier.
Excellent. Merci énormément pour ton temps, pour ta générosité. Cette information est très pertinente. J'espère que ça va aider des gens justement à faire des choix éclairés et de choisir un bon produit. Puis moi, je suggère énormément de le faire, surtout que juste l'envoi, comme je mentionnais précédemment, l'envoi des équipes de spécialistes quand on est dans le trouble, ça vaut le prix qu'on paye pour l'assurance qui est associée à ça.
En tout cas, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pensé à nous pour cette capsule-là. J'espère effectivement qu'elle sera bénéfique pour ceux qui l'écouteront. Puis, n'hésitez pas, si parfois on peut vous être utile, ça va nous faire plaisir d'être là pour vous répondre. Puis encore, merci à toi du temps que tu nous as accordé dans tes réseaux pour faire connaître plus ce volet-là, parfois qui est moins connu. Alors, on espère qu'on aura été plus éclairant pour ceux et celles qui auront à aborder ce sujet-là dans les prochains jours, semaines et mois.
Merci.
Merci, Nicolas. À bientôt.